Ce soir, eh bien, dernier épisode de notre semaine consacrée à Leonard Cohen. Voilà déjà 5 ans que le grand poète et chanteur canadien nous a quittés. Et nous allons à nouveau discuter avec sa biographe Sylvie Simmons, qu'il a connue intimement. Et ce sera le dernier épisode de cette série de réécoute. Very Good Trip, c'est parti!
You come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was a little gypsy boy before I let you take me home. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. You sing so pretty. You know that I really love to live with you. Forget to pray for the angel, and then the angel forgets to pray for us. Oh, so, Mary and I, it's time that we began to laugh and cry. Your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you that I was curious. I never said
that I.
It's time that we began.
So Long Marianne, au revoir Marianne, une des premières chansons à avoir fait connaître Leonard Cohen, une des plus touchantes aussi, un adieu prémonitoire à Marianne Helen, la femme auprès de laquelle il avait vécu ses jeunes années frugales au début des années 60 sur l'île grecque de Hydra, c'est pas loin de la côte est du Péloponnèse. En ce temps-là, Cohen n'était qu'un poète et écrivain pauvre, inconnu, en dehors des milieux littéraires de Montréal et Toronto. Il chantait alors et jouait de la guitare simplement pour son plaisir. En 66, il a lâché Marianne pour se lancer dans le vaste monde. Et plus de 40 ans plus tard, la journaliste anglaise Sylvie Simmons, dont je le rappelle, l'excellente biographie consacrée au chanteur I'm Your Man, publiée aux éditions de L'Échappée, s'est retrouvée face à Cohen. Elle lui a demandé pourquoi il avait ainsi abandonné une femme qu'il aimait. C'est un moment particulièrement intense qu'a évoqué pour nous, auditrices, auditeurs de France Inter, Sylvie Simmons, avec qui, je vous en ai parlé hier soir, j'ai eu l'occasion de converser longuement dans sa maison de San Francisco il y a quelques semaines.
Nous étions par terre, dans le garage, et on passait en revue ces photos. Elles étaient dans des cartons, il y avait des photos au hasard, dans ces boîtes en carton, et à chaque fois qu'il sortait une photo de Marianne, je voyais que ses yeux se remplissaient de tendresse. Il regardait les photos et il a écrit un très beau poème sur Marianne. Et en fait, comment il avait quitté le monde pour elle, pas le monde simplement du voyage, le monde d'une façon générale, qui comprend également les relations sexuelles avec de nombreuses autres femmes. Mais il ne pouvait pas rester. Léonard était un petit peu gêné d'ailleurs quand il m'a dit que c'était bien d'avoir vécu avec Marianne lorsqu'il rédigeait son roman, parce que c'était une création au long cours, et l'avoir à ses côtés, qui préparait le dîner, qui mettait des fleurs dans des vases et qui s'occupait de l'enfant, tout ça, ça le réconfortait, ça le soutenait. Alors, c'est un petit peu dur de dire ça, d'avoir une petite femme à la maison pour s'occuper de soi, c'est très macho années 50, hein, alors qu'on imagine l'amour libre des années 60 et ainsi de suite. Mais c'était quand même comme ça, et Marianne m'a dit, moi j'étais une femme à l'ancienne, et je pensais que Léonard était un homme à l'ancienne, et par certains côtés, il l'était. Mais il était très infidèle. Et c'était dur pour moi, m'a-t-elle dit. Elle ne l'a jamais critiqué pour autant, parce qu'il n'avait jamais prétendu qu'il serait monogame. Elle et aussi Dominique Esserman l'ont toujours aimé, même lorsqu'ils n'étaient pas en couple. Et en fait, Marianne n'exigeait rien de Léonard. Elle n'exigeait pas d'argent, elle n'exigeait rien. Et parfois, lorsqu'il était à Oslo, là où elle vivait, et qu'il jouait en concert, elle ne demandait même pas de billets gratuits, ou elle ne demandait pas d'aller en coulisses pour le voir. Et je crois qu'il appréciait cette loyauté qu'exprimait cette femme. Lui-même avait été loyal envers des amis, son label et puis son éditeur. Et d'une certaine façon, et à sa façon, il avait été loyal envers les femmes, mais pas dans une relation exclusive. Une fois, je lui ai posé la question, je lui ai dit que sa vie était complètement insensée, et donc il a souri avec douceur et ne disait rien. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'allait pas chez cette femme ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Cette vie sur une île grecque avec Marianne et l'enfant, et puis de temps en temps, tu partais, tu allais à Montréal, à New York, et tu revenais. Et il m'a répondu, je sais, il m'a pris la main en disant, ça va aller, tu vas voir, je sais, mais je ne suis pas dans ce monde-là. Et ce monde-là, il ne le regrette pas, hein. Et moi j'ai dit, mais tu ne t'es jamais dit, bon ben je pourrais travailler, je ne sais pas, dans une librairie par exemple. Tu peux travailler dans une librairie, vendre des livres. Tu rentrerais chez toi tôt le soir et tu ferais l'amour avec elle. Et puis ensuite tu pourrais te mettre à écrire. Ah, il m'a dit, oui, peut-être que ça aurait pu être chouette. Mais tout ceci, tout ce monde plein de si a disparu.
What was so interesting is the women in his life, even when I asked very tough questions.
Même lorsque je leur posais des questions très difficiles, toutes les femmes de sa vie m'ont dit, bah, vous savez, il l'a fait de son mieux. Il n'a jamais menti, il n'a jamais promis qu'il serait fidèle. Et c'était assez intéressant, l'une des meilleures interviews pour le comprendre, notamment s'agissant de la fin de sa vie ou même s'agissant de l'entièreté de sa vie. C'était l'interview que j'ai faite avec son ex-fiancée Rebecca de Mornay. C'est la dernière personne que j'ai interviewée avant Léonard pour rédiger le livre. Et c'était difficile d'obtenir cette interview, comme c'est le cas pour toutes les vedettes de cinéma. Mais elle a bien voulu parler. Et après l'entretien, d'ailleurs, elle m'a envoyé des informations supplémentaires. Et je lui ai dit, je sais, cette question est peut-être personnelle, mais il y a un vide dans ce récit, voyez-vous, et personne n'en a parlé parce qu'il y a un album, The Future, un des albums qui se vend le mieux aux États-Unis, autrement dit, ça veut dire une grosse fortune, une tournée couronnée de réussite. Il était fiancé avec vous, comédienne fortunée, avec une formidable carrière. Et généralement, ses partenaires étaient des gens qui comptaient sur lui. Enfin, compter, c'est peut-être pas le mot idéal, mais pas des gens comme vous avec une carrière propre. Et puis, il vous quitte pour devenir moine. Je dois comprendre. Il ne me dit pas. Et elle a rigolé, elle a dit, c'est formidable pour ma réputation avec les hommes. Et elle m'a dit, si vous réfléchissez à Léonard et à sa vie, il ne s'engageait jamais envers rien ni personne. Il ne s'est pas engagé envers sa famille, il ne voulait pas participer aux affaires, ni même à tout ce qui était lié au rabbin. Et avec Roshi, il a travaillé, et puis ensuite il a travaillé avec le maître du Vedanta, mais il ne s'était jamais engagé envers la mère de ses enfants. Donc il y a eu une période assez longue avec Marianne, par exemple, mais il n'était pas engagé avec elle. Il n'était pas non plus engagé envers son activité de musicien. Il sentait un déchirement dans le domaine de la musique s'agissant de son art à lui. Et Rebecca de Mornay a dit, enfin, il a décidé de s'engager pour être moine. Voilà. Voilà son explication. Et il lui a dit un jour, je crois que tu devrais avoir des enfants. Et Rebecca de Mornay a dit, mais comment ça, moi, nous, tu veux dire, il faut qu'on se marie. Il a dit, non, il faut que tu aies des enfants. Et à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'il ne voulait pas s'engager à la paternité. Il avait déjà participé à l'évolution avec les deux enfants qu'il avait eus au préalable, mais il ne voulait pas à nouveau s'engager avec Rebecca de Mornay. Donc c'était une interview très éclairante et ça a permis de comprendre beaucoup de choses sur lui. Je suis allé à la cérémonie, non pas celle à Montréal qui était pour les intimes. Alors, c'était à Los Angeles, nous étions une cinquantaine. C'était une très belle cérémonie. Rebecca de Mornay y était. Marianne, non, parce qu'elle avait récemment disparu. Il y avait Dominique Isserman aussi, et de nombreuses femmes. Suzanne, la mère de ses enfants, tous ses amis et toutes ses amies. Jennifer Wands. Voilà des femmes qui avaient compris et pardonné. En fait, elles pensaient qu'il n'y avait rien à pardonner parce qu'il avait toujours été honnête.
I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. Do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar can say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. Oh, the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
Treaty, une des chansons testamentaires de Leonard Cohen, extraite de son ultime album You Want It Darker, sorti en octobre 2016, soit moins de 3 semaines avant sa mort. Il y a dans cette chanson où il évoque le fantôme de toutes ses relations passées avec les femmes, un passage très révélateur. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real and that was me. Je suis désolé d'avoir fait de toi un spectre. De nous deux, il n'y avait qu'une personne réelle et c'était moi. Une manière que Cohen avait pour dire que dans ses relations amoureuses, il n'avait peut-être pas cherché à comprendre l'être profond de celle qui avait partagé sa vie et qu'il avait projeté sur elle tout simplement ses fantasmes et que il n'y avait rien de vrai. L'éternel malentendu sans doute entre les hommes et les femmes, et que les poètes vivent avec peut-être plus de lucidité que les autres. Au début des années 70, à New York, Cohen a rencontré une très jeune femme qui avait alors 19 ans, Susan Elrod. Alors rien à voir avec la fameuse Susan de la chanson que tout le monde connaît, ou presque. Il l'avait connue, cette Susan-là, la première des années auparavant, d'une vieille maison de Montréal au bord du Saint-Laurent, où elle lui avait servi du thé, et avec qui il n'avait eu une relation que platonique. Cette seconde Susan, new-yorkaise, il l'avait connue lors d'un cours de scientologie. Oui, c'est une circonstance qui, soit dit en passant, ne plaît pas outre mesure aux admirateurs de Cohen, mais enfin, c'est la vérité historique. Il avait alors pratiquement le double de son âge et il vivait une vie misérable dans un hôtel bohème et pouilleux, le fameux Chelsea Hotel, qu'il immortaliserait bientôt dans une chanson du même nom, tout comme d'ailleurs la fellation que Janis Joplin lui a faite en ces lieux, mais enfin c'est une autre affaire. L'histoire que raconte Sylvie Simmons est d'ailleurs étonnante concernant Susan Elrod. Cette Susan vit alors avec un homme qui a au moins, lui, le triple de son âge, un homme richissime. Maxime, qui loge à l'année dans la suite d'un hôtel de luxe, donc à New York. Et du jour au lendemain, Suzanne annonce à son protecteur qu'elle a rencontré un poète famélique et qu'elle va tout quitter pour lui. Alors l'homme richissime qui la protège envoie son majordome, ça s'invente pas, acheter les disques et les recueils de poésie et les romans de Cohen. Il veut comprendre. Il s'isole pendant des heures dans son bureau, il écoute, il lit, il médite, il réfléchit, et puis quelques heures plus tard, il ressort, et voici ce qu'il dit à son ex-fiancée: « Tu me quittes pour quelqu'un d'intéressant et qui en vaut la peine, bonne chance. » Seulement, ça n'a pas été facile entre ces deux-là.
Suzanne était vraisemblablement la première femme de sa vie et qui l'a pris à son propre jeu. Elle le trompait, il la trompait. Il n'aimait pas qu'elle le trompe. Auparavant, il y avait Marianne qui était douce et qui était triste lorsque Léonard la trompait. Suzanne, elle, ne restait pas les bras croisés. Donc ça a généré une grande frustration. C'était un homme qui plaisait aux femmes, mais de l'ancienne génération, à l'ancienne, si vous voulez. Ne tolérait pas que sa femme le trompe. Par conséquent, il y a eu une espèce d'explosion de colère. On retrouve ça dans de façon autobiographique, dans La mort d'un homme qui plaisait aux femmes, Death of a Ladies Man. Et si vous regardez la couverture de l'album, vous voyez un homme qui a l'air complètement perdu, le regard vide. Il y a une femme en colère.
Elle a l'air de s'ennuyer aussi. Et sa rupture avec Suzanne, qui a été sa muse et la mère de ses enfants, a été violente et acrimonieuse, puisque Suzanne est partie vivre en France, dans la région d'Avignon avec ses enfants. Et quand Cohen venait les voir, il devait dormir dans une caravane à l'extérieur de la maison. Il a eu par la suite d'autres relations durables. La comédienne américaine Rebecca De Mornay l'a accompagné durant sa renaissance à la charnière des années 80-90. Et puis à la fin, il y a eu la chanteuse de jazz Anjani Thomas, qui fut aussi sa collaboratrice. Et pourtant, quand Cohen est mort, il était seul. Aucune femme n'était à ses côtés. Et j'ai demandé à Sylvie Simmons si elle en avait été surprise.
Non. It surprised me that he was engaged again.
Ça m'a surpris de savoir qu'il était à nouveau fiancé, mais c'est tout à fait logique. C'est une femme merveilleuse qui avait été collaboratrice, elle avait été choriste, il la connaissait bien. Et c'était une bonne musicienne, ils pouvaient composer ensemble et ils vivaient proches l'un de l'autre, ils se voyaient beaucoup. Mais Léonard menait une vie qui était difficile si on voulait être sa partenaire. Il se levait à 3 heures du matin pour méditer. Il allait dans un centre zen pour y méditer. Il menait une vie assez particulière tout de même. C'était assez égocentrique, pas arrogant, hein, mais tout tournait autour de lui tout de même. Donc il se mettait au service de son travail. Et à un moment donné, il a fallu qu'il reparte en tournée parce que c'était la seule façon de regagner l'argent qui lui avait été dérobé. Eh bien, c'était ça qu'il a fait. Il est reparti en tournée et à ce moment-là, il a décidé de ne pas mélanger sa vie privée avec sa tournée. Anjani n'a pas été choisie comme choriste. C'est étrange, hein. Sharon Robinson a été choriste. Elle avait été avec les Web Sisters. Il y avait une grande différence d'âge et je crois qu'une différence d'âge entre un homme de 65 ans et une femme de 25 ans de moins, c'est une différence moins importante que lorsque l'homme a 70 ou 75 ans. La différence ne fait que grandir de manière exponentielle, et ça, il faut le savoir aussi. Et puis, il s'engageait envers son travail.
Et quand il est mort, il n'y avait aucune femme à ses côtés.
Non, mais c'est vrai de Gainsbourg aussi, qui est mort tout seul dans son lit. Mais c'est ça. Il a travaillé jusqu'au dernier jour. Moi, j'étais en contact avec lui environ 5 semaines avant sa disparition. On était en contact par courriel, on s'envoyait des petits messages drôles de temps en temps. Mais il m'a dit, oh, excuse la brièveté de ma réponse, je ne me sens pas très bien. L'euphémisme par excellence. À la Leonard Cohen, il était plus que souffrant, il était extrêmement malade, mais il n'en disait rien. Aux obsèques, à la cérémonie à Los Angeles, je devrais dire, on a compris toute l'histoire sur son décès. Il était au téléphone dans sa chambre avec une amie, la personne avec qui il avait acheté la maison à Los Angeles. Pour être près de Roshi, donc ils étaient au téléphone, donc c'était un vieil homme qui parlait avec un autre homme âgé au téléphone, et à un moment donné, donc Leonard s'est rapproché du balcon, et son ami dit, ah, tu vas te jeter du balcon pour accélérer les choses, n'est-ce pas? Bon, je suis au premier étage, ça n'a pas marché, a dit Leonard. Donc ils plaisantaient sur leurs petits bobos et leurs douleurs, ces deux octogénaires, ou presque octogénaires. Et l'ami a dit, eh bien, la conversation s'est interrompue et Léonard a dit, ben, je vais me coucher, j'ai mal à la tête. Et puis il s'est endormi et il ne s'est jamais réveillé. Mais jusqu'au bout, il travaillait sur The Flame, ce recueil de poésie. Et son dernier album était sorti très peu de temps après, You Wanted Darker.
If you are the healer, I'm broken and lame.
must be the shame. You want it darker.
It's Darker, la chanson-titre de l'ultime album de Leonard Cohen sorti en octobre 2016, marqué par l'intervention du chantre de la synagogue Shaar HaShamayim dans le quartier de Westmount, dans l'est de Montréal, celle qu'avait fréquenté Leonard Cohen enfant et adolescent, et le chantre chante Hineni Hineni, ce qui signifie tout simplement « me voici ». Alors il faut le souligner, le retour spectaculaire et triomphal de Cohen sur les scènes du monde entier à partir de l'année 2008, après 15 ans d'absence, a eu une cause très prosaïque et, pour être précis, catastrophique. Sylvie Simmons y a fait tout à l'heure allusion, ça vous a peut-être intrigué si vous connaissez pas l'histoire, donc je vais bien sûr vous la raconter. En 2004, alors qu'il approchait les 70 ans, Leonard Cohen a dû faire face à une épreuve d'autant plus terrible qu'elle reposait sur une trahison. Au milieu des années 90, il menait une vie plus qu'austère dans un centre bouddhiste zen au mont Bondi, c'est dans la montagne située au nord-est de Los Angeles, auprès de son ami et maître Sasaki, dit Roshi. Je vous en ai parlé hier soir, Cohen se levait à 3h du matin pour scier du bois, planter des clous, réparer les toilettes, et comme il le disait, c'était la version travaux forcés ou bataillon des Marines de l'enseignement zen. Et pendant ce temps-là, il avait confié la gestion de ses affaires à une certaine Kelly Lynch, qui était l'ex-assistante de son premier manager, Marty Machat. Il se trouve que cette Kelly Lynch était aussi une de ses anciennes amantes. Et après enquête, s'est avéré que celle-ci avait vendu dans son dos les droits de 127 de ses chansons et qu'elle avait placé l'argent sur un compte dont elle était la principale bénéficiaire. Cohen a alors découvert que 10 à 13 millions de dollars sur lesquels il comptait pour assurer sa retraite avaient tout simplement disparu, il s'est retrouvé complètement ruiné. C'est une histoire digne d'un polar sur laquelle Sylvie Simmons, l'auteur, je rappelle, d'une très bonne biographie du chanteur Amy Orman, et que j'ai rencontré chez elle à San Francisco pour France Inter, sur laquelle donc elle a enquêté comme une détective privée.
Kelly Lynch, donc cette assistante, avait été très proche de lui, elle s'était occupée de ses enfants. Donc il y avait une proximité entre eux, et il s'est produit quelque chose. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit ne pas comprendre ce qui s'est passé. Tout le monde l'aimait, cette Kelly Lynch. Elle était formidable, elle était très proche de lui. Mais personne ne sait vraiment. En tout cas, il s'est produit quelque chose. Et du reste, les choses deviennent encore plus étranges, un peu comme un mauvais polar, en quelque sorte. Il semblerait qu'il y ait une cabale menée par des moines tibétains contre les moines Rinzai. C'est pourquoi ce chapitre a été très difficile à écrire. En plus, il y avait des avocats qui regardaient par-dessus mon épaule à mesure que j'écrivais. Bref, cette Kelly Lynch était bouddhiste, mais d'une autre école, l'école tibétaine. Et elle était amie avec un responsable financier basé au Colorado, qui était lui aussi moine tibétain. Il y a une autre personne, un comptable. Bref, elle avait mis en place un système, une mécanique avec cet homme dans le Colorado. Et les États-Unis, c'est un endroit assez étrange. Les Français le savent, les Anglais aussi.
Car
le Colorado, on imagine le pays du western. Si on est propriétaire d'un cheval et qu'on laisse son cheval auprès d'un moine et qu'on veut récupérer le cheval et que le cheval est mort, à ce moment-là, on peut demander la pendaison ou l'emprisonnement de cette personne. Mais si vous laissez votre cheval là pendant 5 ans sans le surveiller et que le cheval disparaît, tant pis. Ainsi, il avait laissé tous ses actifs financiers entre les mains de Kelly Lynch, son manager, sans s'en soucier. Il vivait en moine. Il ne se souciait pas de tout cela. Et le poteau rose, il l'a découvert parce que le petit ami de quelqu'un qui travaillait avec Kelly Lynch a dit à sa fille, Lorca, « Eh bien, il faut que ton père s'occupe de ses comptes en banque. » Donc, Léonard est allé à sa banque, il a quitté le monastère, il est allé chez lui pour un court séjour et il s'est rendu compte que ses comptes de retraite étaient vides. Presque vide. Et si on retire de l'argent d'un fonds de retraite, il faut payer des impôts. C'est la loi américaine. Donc, non seulement avait-il perdu ses fonds, mais en plus, il devait payer des impôts. Et il avait 70 ans à l'époque. Donc, c'était de la folie qui montre que ses pratiques zen avaient bien fonctionné, que la dépression était partie. Et puis, il s'est rendu compte que la seule possibilité pour lui, c'était de repartir en tournée. Et au bout du compte, ça a provoqué une des plus merveilleuses transformations de sa vie. Dans le livre, j'explique, sur le ton de la plaisanterie, que s'il s'agissait de la Bible et pas d'une biographie, cette Kelly Lynch aurait le rôle de Judas. Elle a trahi Jésus. Jésus, à ce moment-là, suit son parcours et est crucifié et devient Dieu, ni plus ni moins. Donc c'est un petit peu vrai, cette métaphore. C'est un petit peu grâce à cet événement qu'il est reparti en tournée. Il a tourné cela à son avantage, un petit peu à son insu, certes. Il était très inquiet avant de partir en tournée, mais il a eu de la chance parce que le tourneur britannique lui a fait une offre formidable.
Qu'on peut résumer ainsi, $1 million pour financer des répétitions sans limite de temps, et au cas où Cohen ne se sentait pas prêt, bien le promoteur, sans pouvoir de contrainte, en était pour ses frais.
You can dance, every dance, the guy who catches your eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man, holding your hand in the pale moonlight. Just don't forget, taking you, and in whose arms you're gonna be. Save the laugh, dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Dance and sing, but when we're apart, don't you give your love to anyone. Just don't forget who's taken you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you so much. You can dance, you can carry on, till the night is gone and it's time to go. He will ask if you came alone, can he take you home? You must tell him no. Just don't forget. Carry on till the night is gone and it's time to go. He will ask
If you came alone, can he take you home? You must tell him no. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me.
So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me.
Very good trip, Mishka Assayas.
Une ovation pour Leonard Cohen sur la scène du O2 à Dublin. C'était en septembre 2013, lors de son ultime tournée. Il chantait une vieille chanson des Drifters, interprétée à l'origine par leur chanteur Ben E. King. Vous savez, celui qui a créé le fameux Stand By Me. Et vous l'entendez, le public irlandais chante en chœur, très juste d'ailleurs, c'est souvent le cas des Irlandais, pour l'accompagner. Il y avait alors une sérénité chez Cohen qui irradiait autour de lui et atteignait d'abord ses musiciens, comme le merveilleux joueur de lutte espagnol Javier Mas, puis le public au plus profond de ses fibres. Alors voilà, Sylvie Simmons raconte comment la trahison de Kelly Lynch s'est transformée en bénédiction pour Leonard Cohen.
Il a toujours dit à son directeur musical, tu sais, je suis pas à 100% de mes capacités. Je suis à 80% là, mais ça va baisser jusqu'à 10%. Ils ont commencé par jouer dans des toutes petites salles. Au Canada, oui, c'est ça. Et c'est quand il a compris que les gens l'aimaient et que les groupes jouaient de manière si calme et douce. Il était comme un jeune de 18 ans qui jouait soir après soir. Et je me souviens après la tournée de 2010, qui s'est terminée à Las Vegas, vous vous souvenez, je suis allé chez Leonard 2 mois plus tard. C'était la naissance de sa petite fille, il voulait aller la voir. Et je lui parlais et j'ai vu quelque chose dans son regard. Je lui ai dit, ça te manque, hein? Ah, il m'a dit, oui, chérie, la tournée, ça me manque. Et il disait que ça lui manquait ce sentiment d'être un vieil homme, mais qui avait un emploi à temps plein. Et c'était sa vie, en fait, d'être un artiste, un chanteur. Il fallait qu'il continue à écrire, à chanter sur scène. La retraite, ça ne lui plaisait pas. Et il aimait la discipline militaire de la tournée. Donc, depuis son enfance, tout était remonté à la surface. Et on pouvait voir comment il se déplaçait sur scène. Oui, il était comme un gamin avec des étincelles dans les yeux. Mais pour ces raisons d'argent, il est reparti en tournée. Il a fini par gagner beaucoup d'argent. Et puis, il avait d'immenses publics à l'âge de 70 ans. Autrement dit, il faudrait remercier Kelly Lynch. Il faudrait lui envoyer une lettre pour la remercier.
Après avoir quitté le monastère, et après avoir quitté Ramesh, d'une certaine façon, on pouvait se dire qu'il pourrait être gourou en plaisantant. On peut se demander ce que Leonard aurait pu faire dans cette situation, parce qu'il avait beaucoup appris d'une certaine façon. Il y avait une espèce de lumière en lui, il avait vraiment beaucoup appris, et sur son visage et dans ses yeux, on voyait une légèreté. Quand il marchait, c'était un petit peu comme Fred Astaire, une légèreté dans sa démarche et dans son être qu'il n'avait pas connu auparavant. Et au bout du compte, il y avait la compréhension, cette profondeur. Il avait compris qu'il y avait de l'obscurité dans la vie et ainsi de suite, que la vie se terminait toujours mal, mais qu'en fait, il avait compris qu'il y avait toujours la possibilité de l'amour. Et cet amour, on peut l'atteindre, c'est ce qu'on en voyait en lui. Mais il y avait chez lui cette notion d'être au service de l'amour, de la vie. Et moi, je ressentais cela. Mais il préférait ne pas parler du passé. Mais il savait que moi, sa biographe, je n'allais pas m'en tenir là.
Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il avait été au service de Roshi, qu'il s'était mis à la disposition de cette vérité, de cette quête de la vérité, de cette légèreté. Et dans ses spectacles, on sentait cela en lui. Les grands concerts. Et avant les concerts, il rencontrait des gens. Et les gens voulaient consigner, signer des autographes, qu'ils prennent des selfies. Mais bon, il n'y avait pas d'acrimonie pour ça. Il le faisait volontiers, mais il était toujours ouvert envers les autres. Il avait souffert, mais il avait été exalté dans la vie. Et il aimait bien être devant le public, être au service des autres. Alors ça, c'est complètement démodé. Au XXIe siècle, hein, que d'être au service des autres. Mais il y avait en Leonard Cohen une véritable humilité. Et moi, je n'ai vu ça que très rarement chez des gens, des artistes dans le domaine de la musique. Les gens qui font de la musique souffrent d'une certaine façon. La célébrité les distord, les corrompt d'une certaine façon. Mais chez Leonard Cohen, ce n'était pas le cas. Moi, je n'ai pas senti ça. Il était là, au service de son art et au service des gens qui étaient ses auditeurs et son public. Et il était très reconnaissant de tout cela. Pendant des années, il a joué aux États-Unis sans plus de succès que cela, mais aujourd'hui, les gens sont debout et c'était une véritable réussite. C'est pas tellement une vague d'amour qui vous submerge, c'est un tsunami. Et quel était le sentiment, lui ai-je demandé. Et il m'a dit, oh, je ne savais pas, je savais même pas qu'il y aurait un public, moi. Mais c'est de la fausse modestie. Il me dit, non, j'ai fait de nombreux albums, il y en a certains qui se sont mal vendus, ça faisait 15 ans que j'étais pas monté sur scène. Et puis, me voilà tout à coup, avec un public absolument incroyable. Je suis tellement reconnaissant envers ces gens. Et toute cette gratitude, il l'avait en lui. Et il enlevait son chapeau, il le mettait sur son cœur. Et j'ai demandé aux musiciens si c'était quelque chose qu'ils avaient répété. Et les musiciens m'ont dit, non, non, bon, certes, il l'a répété, donc ça fait partie du spectacle ou de la fin de spectacle. Mais non, c'était plein de sincérité, donc. Et Sharon Robinson, les Web Sisters, chantaient avec lui ses chansons, c'était absolument merveilleux. Donc, il y avait cette sincérité. Et je pense que. Il aurait continué si sa santé ne l'avait pas lâché.
Alors Sylvie Simon se rappelle une de ses ultimes rencontres avec Cohen. C'était chez lui. Il y en a eu d'autres, mais celle-là est très belle. C'était fin 2011. Elle était assise côte à côte avec lui dans son bureau qui ressemblait à une cellule de moine. Et ils écoutaient ensemble son nouvel album d'alors, Old Ideas.
Il avait fermé les yeux. Nous étions silencieux. Et je lui ai dit, je te regardais, tu avais les yeux fermés. Il y a eu une pause, un ange est passé, il a dit, ah bon, dans un demi-sourire. Et je me demandais ce qui te passait dans l'esprit, lui ai-je dit. Il m'a dit, je cherche des erreurs, des trahisons. J'essayais de voir s'il y avait de la fausseté. La fausseté, le manque de vérité chez les gens. Et si tu avais entendu quelque chose de faux, il dit, ben, j'aurais retravaillé. Et je suis allé sur le balcon, ou je ne sais plus. À un moment, il m'a dit, je suis désolé de ne pas être mort. Je sais que c'est difficile pour toi de terminer le livre. Ce serait plus pratique pour toi si j'étais mort. Bon, tout ça, c'était sur le ton de la plaisanterie. Ça aurait été parfait si j'avais été à Las Vegas sur scène. Bon, moi, je disais rien. Et moi, j'ai dit, c'est votre responsabilité de parler pour qu'on puisse faire le livre. Et là, on n'était pas sur le balcon, on était dans sa cuisine. Et il m'a dit, et j'ai dit, est-ce que tu as tes notes? Et il m'a dit, oui.
parfois ses réponses étaient monosyllabiques. Et j'ai dit, est-ce que tu peux me lire la dernière chose que tu as écrite? Je vais l'intégrer dans le livre. Il a sorti son carnet. C'était un vieux carnet, un petit cahier dans lequel il prenait des notes. Il a regardé et il a pris son temps. Il a retourné quelques pages. Et j'ai dit, tu es en train de tricher, moi je veux la dernière chose que tu as écrite. Et puis il a lu à haute voix, comme s'il lisait les 10 commandements avec sa voix profonde. Et puis il y a ce rêve étrange. Et c'était un rêve qu'il avait fait dans un hôtel miteux au Canada. Vers la fin de la tournée, il rêvait qu'il était dans les toilettes des femmes et qu'il y avait une femme qui était allongée sur un divan avec un psy. Et bon, bref, ce rêve très étrange. Et c'était ça, la fin du livre. Alors, évidemment, avec l'éditeur américain, il y a eu des tas de discussions et on a dû transformer la fin. Et c'est là qu'il y a eu la scène sur le balcon. Et il m'a expliqué comment il y avait un prof de danse qui venait chez lui parce que sa mère aimait danser. Et elle dansait avec des sérénades et ainsi de suite. Et il a fait cette danse pour moi, sur le balcon. C'était le coucher du soleil, je me souviens. Et on voyait les insectes dans la lumière du soleil. Et c'était tout à fait magique, cette ambiance. Je m'en souviendrai toujours.
Merci à Xavier Combe pour son interprétation. Merci beaucoup à Stéphane Ronxin, Tristan Gratalon. Et je vous dis à lundi.
Sometimes I find I get to thinking of the past. We swore to each other then our love would surely last. You kept right on loving, I went on a fast. Now I am too thin and your love is too vast. But I know from your eye, and I know from your smile, that tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls almost bare. There's only one bed and there's only one prayer. I listen all night for your step on the stair. But I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while. Oh, sometimes I see her undressing for me. She's a soft, naked lady love meant her to be. And she's moving her body so brave and so free. If I've got to remember, that's a fine memory. And I know from her eyes, and I know from her smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine, will be fine. For a while.
Et voilà, nous quittons avec ce classique des débuts de Lincoln, Tonight Will Be Fine. C'était le dernier titre de la soirée, le dernier titre de la semaine. On se retrouvera évidemment dès lundi prochain pour une autre série de Very Good Trips.